espoir. Quand d'autres bras je puisse choisir, quand d'autres bras je puisse choisir.
Bienvenue dans Les Amis d'Orwell et cette semaine, énorme hommage à Maurice Rachfus.
War is peace. Freedom is slavery.
Notre ami Maurice Rachfus est parti il y a 4 ans déjà, c'était en juin 2020. Et le 9 mars dernier, se tenait une soirée en son hommage à la bibliothèque associative de Malakoff, en présence de Marc Plocky, son fils donc, qui représentait l'association des amis de Maurice Rachfus. Et en présence aussi ce soir-là de l'équipe du projet Antimédia, un site internet qui reprend l'esprit du travail de Maurice Rachfus sur les exactions policières, puisqu'à partir de 1968, Maurice a méthodiquement rassemblé des coupures de presse sur les basses besognes de la police française, qu'il a connues d'ailleurs dès l'âge de 14 ans, puisque lors de la rafle du Veldiv en 42, c'est la police française qui est venue arrêter toute sa famille. Nous y reviendrons bien entendu. Le site antidotemedianoblogs.org est donc un travail de recensement de toutes les violences d'État. Il est en ligne depuis avril 2022. Et nous entendrons son équipe, Isa, Lou et Laurent. Laurent Théron, membre de l'Assemblée des blessés et de désarmons-les, lui-même mutilé en 2016 par une grenade de CRS. Nous en avons parlé souvent dans cette émission. Les violences meurtrières de la police, on les vit toujours en permanence. Depuis une semaine, c'est le jeune Wanis de la Courneuve que l'on pleure suite à un nouveau percutage de scooter par une voiture de la BAC. L'histoire bégaye, comme on dit. Alors, qui était Maurice Rachfus? Sa vie, son œuvre, ses combats? Nous mettrons tout un tas de ressources sur la page de blog de cette émission, sur sourier.info. Alors, nous l'avions reçu souvent, aux amis d'Orwell, notamment quelques mois avant sa mort, en février 2020. C'était une émission en présence de Fatou Dieng et de Farid El Yamni, deux proches, deux personnes tuées sauvagement par la police. Direction la BAM, donc, pour cet hommage à Maurice Rachfus. Et en intro, étaient diffusés de petits films biographiques. Nous allons faire une petite synthèse.
Pour donc ce soir, on est avec l'association des amis de Maurice Rachfus et Marc, tu es secrétaire ou président enfin en tout cas porte-parole ce soir.
Secrétaire adjoint.
Secrétaire adjoint. En tout cas, tu es représentant ce soir pour nous en dire quelques mots. On va projeter quelques petits films.
Oui, ce qui va être projeté, ce sont 4 petits films biographiques qui ont été réalisés par Clara Menet entre 2019 et 2020, puisqu'elle avait rencontré Maurice chez lui à Cachan juste avant le début du confinement. Que ces 4 petits films sont des films d'évocation. Enfin, il y a des photos, il y a des textes, il y a du son. Maurice n'apparaît pas en tant que tel dans ce film, mais il y est pourtant très très présent. Je trouve d'ailleurs que du coup ça donne plus de force d'ailleurs à ce film. Voilà, puis je tiens aussi à remercier la BAM. Jérôme qui n'est pas là ce soir et grâce à qui je dirais les choses ont pu se faire. Enfin, en tout cas, moi, je suis ravi qu'on puisse être là ce soir, voir ces films et puis en parler ensemble. Rachfus. Mes parents étaient juifs polonais tous les deux. Donc mon père est arrivé à Paris en 23. Ma future mère en 24. Je me souviens encore d'une manière assez diffuse de Berlin, avec des drapeaux programmés à toutes les fenêtres.
On avait tout à craindre avec le Hitler au pouvoir allemand depuis 1933, puis le discours de Hitler qui était annonciateur de bien des difficultés. Il y a eu très vite les lois, le statut des Juifs de France, en octobre 1940, et parallèlement, une décision de l'armée allemande faisant obligation aux Juifs de se déclarer. Alors, on aurait pu, les parents ou d'autres n'auraient pu ne pas y aller. Mais il y avait toujours eu ce réflexe des étrangers d'être en règle avec la loi. Moi, j'ai eu une enfance sans trop de problèmes. Avec une scolarité approximative. Et puis, j'ai quitté le circuit scolaire après la rafle du Vel'd'Hiv. Et vraiment, on vivait au jour le jour avec les rumeurs sur les prochaines rafles. On dit couramment, plaisamment, on parle du téléphone arabe. À l'époque, on parlait de rumeurs de la rue des Rosiers. C'était le quartier Saint-Paul. Et on avait le sentiment que c'était inéluctable, sauf qu'on ne pouvait même pas imaginer que la police française arrêterait des femmes et des enfants. Je me souviens même qu'il faisait très chaud sur plein mois de juillet. Mon père s'est élevé la nuit, puis il a dit à ma mère encore une journée de passé. Puis les flics sont arrivés à 5h. Et le hasard a voulu passer. Tout ça, c'est peuplé de hasard. Que les deux flics qui nous ont embarqués, il y en a un des deux qui était un voisin de palier. Il aurait pu nous prévenir. Et après la guerre, j'ai terminé l'apprentissage. J'avais pas envie de travailler. Je voulais rien foutre, je voulais pas de patron. Je voulais faire la révolution. Mais, on m'expliquera plus tard que pour la révolution, il faut bosser avec les autres. Avant la guerre, on était passé avec ma mère quelques jours à l'île Dorée. Et c'était en 1937. Et on avait découvert à la Couarde, je ne sais pas si tu connais l'île Dorée, une colonie de vacances du mouvement des vacances populaires enfantines. Et après le Front populaire, tout ce qui était rouge est devenu populaire. C'était un truc du PC. Chantal International à tout bout de champ, la Jeune Garde. Donc ce sont des choses qui laissent des traces. Ce qui fait qu'à la Libération, quand je suis revenu à Paris, j'ai adhéré aux Jeunesses communistes. Il s'est passé des choses innommables au quartier latin. Le comportement des flics, ils matraquaient n'importe qui, et particulièrement les femmes et les jeunes femmes. Ça a été horrible, horrible. Il y a deux livres de l'UNEF, j'en parle aux éditions du Seuil, où ils racontent les comportements des flics, particulièrement à l'hôpital Beaujon, qui était devenu un centre d'accueil, entre guillemets, des gens arrêtés dans la rue, dans les manifs. Alors, CRSSS, ça veut rien dire, c'est une connerie, parce qu'on n'était quand même pas un régime nazi, mais ils se sont vraiment conduits comme des ignoblement. Jusqu'en février 71, le quartier latin était sous haute surveillance. Tous les vendredis, à partir de la fin d'après-midi, il y avait des files de cars de CRS, Boulevard Saint-Michel, toutes les rues adjacentes. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était Raymond Marcellin, qui avait été nommé à ce poste par De Gaulle le 30 mai, à la fin du mouvement de mai. Et Marcelin est resté en poste jusqu'en février 1974. Et pendant les 4 ans, ces 4 ans, c'était vraiment l'état de siège du quartier latin. Il ne fallait pas s'amuser à traîner. Il y avait des provocations policières terribles. Tous les soirs, je passais une heure ou deux à ça, à découper la presse. Le 6 avril 1993, il y a un jeune garçon de 17 ans qui s'appelle Macomé Mbolole, qui pique une cartouche de cigarette dans un bureau de tabac. Il a pris la main dans le sac par le tenancier qui appelle les flics et ils emmènent le garçon au commissariat des grandes carrières dans le 18e. Un officier de police du commissariat décide de faire un interrogatoire du garçon, menotté, les mains dans le dos, un peu sur le thème « Tu vas voir qui est le patron ici ?» Bon, le gamin a dû lâcher une saleté, je ne sais pas. Toujours dit que l'autre lui dit « Tu vas voir qui dirige ici ?» Puis il a collé une balle à la tête à bout touchant. Le lendemain, on a manifesté en 18e, on s'est fait harceler par les flics, c'était horrible. Et un an après, donc le 6 avril 1994, avec un ami à moi, on a décidé de créer l'Observatoire des libertés publiques et de créer le journal que fait la police. Donc on a créé ça et dès le mois de juin 1994, j'ai paru le premier numéro de que fait la police, qui est paru comme bulletin mensuel avec 8 à 10 000 informations quand même dedans. Et j'ai continué jusqu'en 2014. Ah ben, il y avait des bavures, que des bavures et tout référencé. Sans commentaire. Et qu'on ne puisse pas dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Pendant les manifestations de juin 36, j'étais entre mon père et ma mère, hein, j'avais 8 ans, on était près de la Nation, et il y avait des flics partout, il y avait des gens dans la manif qui criaient la police avec nous, ça m'avait paru bizarre. Je suis bien connu des services de police depuis le 16 juillet 1942, parce que quand ils arrêtent quelqu'un, immédiatement, on lit dans les journaux, un tel était bien connu du service de police. Alors, ce qui m'a conduit à des affirmations du style « La police de la République n'a jamais été républicaine ». On me l'a beaucoup reproché, mais je le crois vraiment.
Ces quatre petits films reflètent bien les engagements et les combats de Maurice. Je pense que c'est quatre éclairages très différents qui entremêlent à la fois la biographie et puis un certain nombre de... C'est plus que des centres d'intérêt, c'est vraiment des engagements d'une vie. Et pour ça, je trouve que ces quatre petits films sont vraiment très... À la fois, ils sont touchants et en même temps, ils sont très représentatifs de ce qu'a été la vie militante de Maurice, parce que ce film, en fait, c'est sur la trajectoire militante plus que sur la vie au quotidien de Maurice.
Justement, là, on dit, bon, les parents ont été arrêtés donc, et ensuite déportés, donc.
Oui.
Donc, finalement, une fois que les deux enfants ont été libérés, comment ils ont vécu? Comment ça s'est passé?
Enfin, c'est pas évoqué dans le film. Il l'évoque dans plusieurs de ses livres, hein, puisque, en fait, avec sa sœur, ils sont libérés à la fin de la journée. Ils sont arrêtés avec les parents. Et un commissaire, au moment de la... Parce qu'ils sont arrêtés à 5h du matin. Ils sont amenés dans ce qu'on appelle un lieu secondaire de regroupement avant le départ, soit pour lever le DIF, soit pour Drancy. Et... En milieu d'après-midi, un gradé arrive en disant que les enfants de moins de 16 ans, de nationalité française ou nés en France, peuvent sortir. à ce moment-là, les parents réfléchissent même pas. Ils disent aux enfants, allez-y, c'est une chance, ne la ratez pas, alors que d'autres parents retiennent leurs enfants, n'envisagent même pas qu'il puisse y avoir une séparation. Et ils vont donc vivre entre juillet 42 et la libération. À la fois, ils vont rejoindre le petit logement des parents. Maurice va rentrer en apprentissage. Sa sœur, elle, va continuer à faire le lycée puis l'école normale. Me demandez pas dans quelles conditions, mais ils sont passés au travers d'un certain nombre de choses, alors qu'ils portaient l'étoile jaune comme l'obligation leur en était faite. Donc je pense que, comme beaucoup de gamins à l'époque, ils faisaient en sorte soit de la cacher, soit de pouvoir aller de temps en temps au cinéma, de pouvoir aller dans les endroits où ils n'avaient pas l'autorisation d'aller. Ils sont passés au travers des mailles du filet. Maurice le raconte très bien dans les chroniques de 42. Il le raconte aussi dans Quand j'étais juif, il revient là-dessus. Dans plusieurs bouquins qu'on a réédités, il revient très précisément sur cette période et comment il a réussi à s'en sortir. Il se trouve qu'il était en apprentissage chez un geôlier qui était formidable et qui l'a beaucoup aidé, qui a fait en sorte que, que cette période soit la moins difficile possible. Et puis, ma tante Jenny, il s'agit quand même de mon père et de ma tante, elle a fini par être protégée par la famille d'une amie avec laquelle elle était au lycée. Et mon père, il se trouve que pendant la fin 42, il évoque dans un de ses livres, va faire une découverte en faisant les courses. Parce qu'en fait, quand on est apprenti, on fait plus de courses qu'on est véritablement à l'établi. Et en faisant une course, c'est-à-dire qu'il allait chez les joailliers, il déposait les trucs, il allait en rechercher, dans un escalier, il trouve une pochette en cuir dans laquelle il y a une fortune immense en diamants, en bijoux de toutes sortes, perdue par un courtier. Il va le ramener à son patron. Le patron appelle tout de suite la chambre syndicale et il va devenir un peu le héros de la chambre syndicale en disant, ce petit garçon de 14 ans, il est d'une honnêteté absolument incroyable, il n'a rien gardé pour lui. Bon, tout le monde était rassuré parce que c'était une véritable petite fortune à l'époque. Et ces gens de la chambre syndicale ont fait en sorte que, en février ou mars 44, il soit mis en fait au vert dans le Vexin. Et c'est quelqu'un du contrôle économique, c'est quelqu'un qui était censé surveiller le marché noir, mais qui devait être, il devait être lié quand même au marché noir, qui cherchait certainement, je dirais, une bonne conduite pour ce qui allait se passer après. Il l'a confié à une famille dans le Vexin, et il n'est revenu en fait qu'après la libération, en vélo à Paris du Vexin. Mais donc, les 3 ou 4 derniers mois, où ça aurait pu être catastrophique, il a effectivement échappé, je dirais, aux dernières rafles, et puis il a assisté au premier bombardement de l'armée américaine à partir de juin, juillet, et il n'est revenu à Paris que fin août. Mais c'est vrai qu'il passe entre les mailles du filet à plusieurs reprises, il l'explique dans le livre, je pense que c'est vraiment une série de hasards, de rencontres... Il a arrêté la joaillerie très rapidement, dès le mois de septembre ou d'octobre, ça ne l'intéressait plus. Il n'a jamais revu, je crois, ce gars du contrôle économique qui a dû faire valoir devant un tribunal qu'il avait sauvé, des gens qu'il fallait sauver. Enfin, bon.
Le premier livre de Maurice, qui est publié en 80, je crois, c'est sur un sujet très délicat. Donc c'est sur l'attitude des organisations représentatives juives à l'époque de l'occupation. Comment t'expliques que c'est penché là-dessus, que c'est son premier ouvrage finalement, parce qu'il y a plein de préoccupations à l'époque. Tu te souviens de cette période, ou est-ce que tu peux expliquer dans le contexte ?
Le contexte, je pense qu'il a été mis sur la piste de l'UGIF, parce qu'il s'agit de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, créée à la demande des occupants nazis. Hein. Ça ne s'est pas créé tout seul, hein. C'est une, même pas qu'une demande, c'était une obligation. Lui aussi avait été confronté à l'UGIF pendant la guerre sans savoir que c'était l'UGIF. Hein. Il avait, juste avant de commencer son apprentissage en joaillerie, il avait été placé dans une des maisons de l'UGIF, rue Lamarque, où je crois qu'il apprenait la menuiserie, Et c'est deux ou trois jours avant qu'il y ait une rafle rue Lamarck que quelqu'un de la famille l'a amené chez le joaillier en question. Et il a échappé déjà à une rafle, parce qu'il y a eu beaucoup de rafles dans ces homes d'enfants et dans ces écoles qui avaient été créées par le GIF, parce qu'il y avait concentration d'enfants, il y avait les listes, le commissaire général aux questions juives exigeait d'avoir les listes à jour régulièrement, et les nazis, ils les avaient de la même manière. Donc, quand il a commencé à écrire, enfin, il écrivait déjà depuis un bout de temps, parce qu'il était journaliste de profession, c'était pour faire bouillir la marmite, il a travaillé pendant 25 ans dans la presse spécialisée, puis à un moment donné, il a commencé à s'intéresser à cette période, et il a découvert qu'il y avait effectivement un pan entier de cette histoire de la collaboration que personne n'avait voulu creuser. Donc il s'est dit, il faut y aller, il faut effectivement, il n'y a aucune raison de laisser quelque chose de côté. C'est un sujet que personne n'avait voulu traiter, parce que c'est un sujet qui en emmerdait plus d'un, qui était effectivement la collaboration des notables français juifs qui ont accepté de participer à la création de l'UJIF et qui ont accepté de collaborer au quotidien et avec le commissaire général aux questions juives et avec les nazis. Et donc il est allé jusqu'au bout du travail, il a montré comment cette institution était une sorte de Judenrat, qu'on appelait les Judenrat.
Les conseils juifs, c'est ça ?
Les conseils juifs, oui, comme il y en avait en Pologne, comme il y en avait enfin, dans tous les pays occupés par les nazis. Et
dans les ghettos aussi.
Oui, dans tous les ghettos à l'Est. Alors, effectivement, il y avait les ghettos, il y avait effectivement manie des Allemands de faire que tout le travail administratif ne soit pas réalisé par eux, mais par effectivement les prisonniers, les déportés, les réprouvés. Et alors, quand Maurice a parlé de Judenrat à la française, tout le monde a poussé des hauts cris, parce que effectivement, il n'y a pas de ghettos, il n'y a pas de liste de convois, mais en même temps, toutes les listes dressées par l'UJIF et toute la façon dont ces notables ont maltraité, méprisé les juifs étrangers, c'est ce que Maurice explique très bien dans son bouquin « Des juifs dans la collaboration ». Et ne serait-ce que le titre, ça, effectivement, ça en a enquiquiné plus d'un. Et le livre avait été préfacé par Pierre Vidal-Naquet parce qu'il trouvait qu'il était nécessaire d'aller traiter de cette question que personne ne voulait traiter parce que c'était un vrai bâton merdeux et qui, pour beaucoup, il fallait pas mettre en cause la communauté juive à travers cette histoire. Maurice, il n'avait pas ce type de remords. Il est allé franco. Beaucoup lui en ont voulu. D'une part d'avoir traité la question, et d'autre part d'avoir fait alors qu'il n'était pas historien de formation. Il a eu des procès qui ont duré pendant des années parce qu'il n'était pas du sérail, parce qu'il n'était pas historien de formation, parce qu'il ne connaissait pas les outils, il ne connaissait pas ceci, il ne connaissait pas cela, parce que son écriture n'était pas une écriture d'universitaire. On lui a reproché pendant des années et des années. Beaucoup des sujets qu'il a rédigés ensuite, que ce soit la police de Vichy, quand il a fait aussi le deuxième tome de l'UJIF sur le travail forcé agricole dans les Ardennes, personne n'avait voulu aussi traiter de cette question. Et à chaque fois, il s'est retrouvé face à des gens qui récusaient son travail, genre, parce que il n'avait pas écrit universitaire sur sa veste. Quoi.
Mais Vidal-Naquet, dans sa préface, je crois qu'il faut la relire, hein, elle est très élogieuse. Justement, il prend acte des faits relevés et il refuse de juger le travail de Maurice sous le sceau du historien ou pas. Et il y a des phrases dans cette préface qui sont vraiment très précises sur la qualité du travail qu'il a effectué. C'est son premier bouquin. Quoi.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'en même temps, il salue le travail, il salue le fait que ce travail ait été fait, que ce soit pas un historien, pour lui, il ne posait pas de problème. Après, il revient sur des éléments qui sont plus d'ordre universitaire, en disant effectivement c'est pas forcément les bons outils, c'est pas forcément c'est tout un débat de savoir si est-ce que les historiens de formation sont forcément propriétaires de leur sujet. C'est un peu la question qui est posée à travers ça.
Bonjour, tu as parlé il y a quelques minutes de procès. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Il y a eu des procès à l'occasion de la parution.
Il y a eu des procès en tant que tel, des procès intellectuels.
Ah d'accord, merci.
Oui, c'était des attaques en diffamation dans la, des critiques virulentes pour dire...
Il n'avait pas ni le statut, ni la légitimité. Voilà. C'était plutôt des procès en légitimité. Voilà, exactement.
Une remarque, là, parce que j'avais lu le livre de Rachfuss, d'une enfance laïque et républicaine. Hein. Et alors, il y avait une page qui m'avait particulièrement frappé. Et c'est le 6 juin 1944. Et il était à Paris.
Ou alors c'est moi qui me trompe dans la chronologie. Il me semble que c'est au printemps qu'il part dans le Vexin. Peut-être que ce n'est que fin mai, début juin. Je ne sais plus. Sincèrement, j'ai peut-être fait une erreur sur le sujet. Mais en tout cas, les deux ou trois derniers mois de la guerre, il les passe dans le Vexin. Et tu dois avoir raison. Hein, c'est moi qui ai anticipé son départ dans le Vexin.
Oui. Moi, j'aimerais bien aborder un moment qui fait référence aux policiers qui viennent l'arrêter en 1942. Et il me semble que c'est un peu le démarrage de toute sa lutte contre la police, et au moins le regard qu'il portait sur la police républicaine ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu peux rappeler ce moment où effectivement il reconnaît, après la guerre, le policier qui l'a arrêté et qui faisait partie du PC ?
Oui, c'est-à-dire que ce policier qui a été longtemps les voisins de père et de ses parents, il s'appelait Mulot. Ça ne s'invente pas. Hein. Et d'ailleurs Maurice l'appelait souvent le rat Mulot. Il n'y a eu aucun échange quand ils sont arrivés à 5 heures du matin. Et il se trouve qu'après la libération, mon père et sa sœur le rencontrent dans une réunion de section du PC à Vincennes. Donc ils vont voir les responsables de la section en disant « Mais comment ça se fait que ce type-là, là, qui est venu arrêter nos parents, soit présent dans le parti ?» Et on leur répond « Mais le camarade Mulot, camarade, a rendu de grands services au parti pendant la guerre. » Et Maurice a d'ailleurs une altercation avec lui qui est racontée dans, je ne sais plus quel bouquin, il me semble que c'est Une enfance laïque et républicaine, où, après la guerre, il vient refaire ses papiers. Et il tombe sur le fameux Mulot au commissariat, qui lui demande l'autorisation des parents. Et tu as l'autorisation de tes parents ? Et je crois qu'il a failli passer de l'autre côté du comptoir pour lui casser la gueule. Et il est parti et il s'est adressé à quelqu'un d'autre. Maurice en est venu à la conclusion que... Chez les flics, pour pouvoir résister la nuit, il fallait quand même collaborer le jour. Et ça, il l'a écrit à plusieurs reprises, parce que le mythe de la résistance dans la police, il est quand même assez tenace. Alors, il y a eu certainement des résistants, des gens très très bien qui ont fait des choses très très bien, mais très majoritairement, les flics, ils y sont allés. Et il y a eu que... Je crois que les démissions se comptent sur les doigts d'une main, en 40 à l'arrivée des nazis. Donc sa première rencontre avec les flics à 14 ans, elle est effectivement, elle est fondatrice un peu de la suite, oui c'est sûr.
Oui justement, bon, c'est très court, donc c'est très elliptique. Mais alors on voit ce travail contre la police, tout ce qu'il fait contre la police, on voit qu'il adhère au PSU, et puis on ne sait pas quand même, on ne sait rien de plus, je veux dire, sur sa vie militante.
Après avoir été encarté au JC entre 44 et 46 et encarté à la 4e internationale entre 46 et 48, il a un peu participé après au groupe socialiste et barbarie avec Castoriadis, hein, voilà, jusqu'au début des années 50, peut-être 52, 53, je sais pas exactement, enfin il en parle dans une enfance laïque et républicaine. Et puis après, il va vivre un peu d'expédient pendant plusieurs années. Il est au quartier latin, il est du côté de Saint-Germain, il va participer à pas mal d'aventures avec les lettristes. Voilà, il rédige des poèmes.
Tu peux rappeler qui était un peu les lettristes ?
C'était
un peu
Dorizou, oui, c'était... Après, je suis pas un spécialiste.
Un mouvement artistique révolutionnaire, on peut dire ça. C'est un peu comme les Dada des années 30, non ?
Oui, qui travaillait effectivement sur la décomposition des mots. Et donc, il a baigné là-dedans pendant quelques années, parce que, comme il l'explique dans le film, il voulait pas bosser, quoi. Ça. Donc, il a fait des dizaines de métiers différents. Il était emballeur, déchargeur à Bercy, enfin, de façon à pouvoir effectivement vivre un petit peu au jour le jour, quoi. Jusqu'à ce que ma sœur arrive, que j'arrive, et qu'à ce moment-là, bah, il faille quand même que la marmite soit chauffée un peu tous les soirs. Donc, là, il va, à partir de 59, rentrer dans la presse par la petite porte, comme correcteur. l'heure. Et puis de 59 jusqu'à 71, il va grimper les échelons dans un groupe de presse jusqu'à devenir secrétaire général du groupe de presse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Del Duca, c'était La Vie des Métiers, c'était des journaux par métier. Il y avait 60 journaux, c'était un très gros groupe de presse jusqu'au début des années 70. Et puis il s'en fera licencier en 71, trois ans après 68, puisqu'en 68, il a amené tout le monde à la grève, il a fait arrêter le travail, il était secrétaire du comité d'entreprise, donc je pense qu'ils ont attendu qu'il ait démissionné de ses mandats pour lui faire la peau en 71. Ouais.
Ah oui, c'est carrément une sanction, une petite vengeance froide.
Et puis après, il est passé de journaux un peu, parce que lui, dans la presse, c'était la presse spécialisée, donc il s'est occupé de formation permanente, il s'est occupé, je ne sais plus, de... Tu veux intervenir, Richard, vas-y.
Oui, je vais dire deux mots de la vie, de ce que je connais, de la vie militante de Maurice. En 68, il habitait Fontenay-aux-Roses et il a largement participé à la création du comité d'action révolutionnaire de Fontenay-aux-Roses. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle militant important pour une génération. On appelait le vieux, il avait 40 ans, et donc il a réellement participé et amené une génération à militer. Et je dois dire qu'en le voyant à l'écran, j'étais quand même pas mal ému. Merci Maurice.
Au milieu des années 50, il ne fait plus grand-chose. Et quand le PSU va se créer à partir d'un certain nombre de partis, il y a le PSA, il y a la Nouvelle Gauche, au milieu des années 50, il y a effectivement un certain nombre de choses qui commencent un petit peu à s'organiser. Et puis, il y a un certain nombre de courants qui vont, à partir de 59, créer le PSU. Et Maurice, lui, a décidé de rejoindre le PSU en pensant que ça pourrait être un outil révolutionnaire. Et lui, c'était dans cette perspective-là qui va au PSU, qui devient le secrétaire de section de Vincennes, je crois. Ils sont au moins une trentaine, une quarantaine du PSU à Vincennes. Et ils ont une liste qui est présentée aux élections en 65 qui n'obtiendra pas la majorité des voix. Et puis en 65, on part de Vincennes pour aller à Fontenay-aux-Roses. On était encore dans le petit appartement où les grands-parents avaient été arrêtés. Moi, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 8 ans. Et on se retrouve à Fontenay dans un appartement où chacun avait sa chambre. C'est pour nous, c'était... absolument incroyable, il y avait une salle de bain, enfin, on ne connaissait pas ça, quoi. Et il arrête de militer au PSU, et en gros, entre 65 et 68, il s'intéresse à la vie politique. Je le vois réagir sur un certain nombre de choses, mais il n'est plus organisé. Et c'est 68 qui va être vraiment l'étincelle, avec le comité d'action, et à partir de 68, il n'arrêtera plus, mais il ne sera plus encarté, il sera... toujours, comme il le dit lui-même, son propre militant. Quoi. Il sera militant de toutes les causes qui l'intéressent. Il sera prêt à travailler avec tout le monde, mais il n'a plus envie de se retrouver dans un carcan organisationnel. Et donc, il va faire énormément de choses. C'est à partir de la rentrée 68 qu'il va commencer son fameux fichier des violences policières. Fichier qui va durer jusqu'en 2014-2015. Hein. C'est le fichier qui maintenant est conservé à La Contemporaine, dans lequel il n'y a pas que les violences policières. Il y a plein de choses. Il y a le syndicalisme, il y a les partis de gauche, il y a les grèves, il y a les syndicats. Enfin, il y a 30 000 fiches sur... énormément de sujets sur lesquels il pensait que c'était important de pouvoir conserver une trace. Donc, il épluchait la presse. Il revenait du boulot le soir. C'était le premier truc qu'il faisait avant qu'on mange. Il découpait. Il avait sa colle, ses ciseaux. Donc, il pouvait découper Le Monde, Combat, tout ce qui pouvait ramener du boulot qui lui tombait sous la main et dans lequel il trouvait un intérêt. Beaucoup de ses fiches lui ont permis de pouvoir ensuite rédiger plusieurs livres. C'est vrai sur La police hors la loi, là, sur des milliers de bavures depuis 68. C'est vrai aussi sur d'autres livres sur la police, où ce fichier lui a vraiment servi comme base de données sur des faits sur lesquels il a pu effectivement faire partir son écriture, son analyse, et expliquer pourquoi ces choses-là, effectivement, intervenaient et comment elles se plaçaient dans un processus, historique, quoi.
Et puis,
vous étiez mis à contribution, vous, les enfants, pour cette petite fiche-là, non ?
Alors, non, on n'était pas du tout mis à contribution pour les fiches. On a été mis à contribution après, quand à partir de 73-74, j'ai plus la date exacte en tête, le comité d'action n'existait plus vraiment. Et en fait, il a créé un journal qui s'appelait Action Socialiste Banlieue Sud, 71-72 peut-être, je ne sais plus en tête. Ça a duré une dizaine d'années, il y avait des abonnés. Là, on était mis à contribution parce que la Renéo était dans ma chambre. On faisait le pliage, on mettait sous enveloppe, on l'apportait à la poste. Et donc, il a fait son petit journal qui irriguait un peu sur la banlieue sud. Il y avait quelques centaines d'abonnés. Et puis, à partir de 80, il a commencé à écrire. Il n'a jamais arrêté. Il y a eu 60 bouquins qui se sont suivis les uns derrière les autres jusqu'en 2012. À partir, comme il l'explique dans le film, à partir de 94, un an après l'assassinat de Macomé au commissaire des grandes carrières, avec Alexis Violet, il crée l'observatoire, l'OLP, l'Observatoire des libertés publiques. Ça le faisait marrer que ça s'appelle l'OLP. Mais, je pense qu'ils l'ont peut-être fait exprès, d'ailleurs. Mais bon. Et tout de suite, le bulletin que fait la police, qui a duré 20 ans. C'est-à-dire qu'entre 1994 et 2014, c'était tous les mois un bulletin qui tombait avec toutes les recensions de violences, de mauvaises manières, tout ce qui pouvait recenser à la fois de ce qui lui tombait sous la main et de ce qu'un certain nombre de correspondants lui rapportaient, de ce qui pouvait se passer en région.
On va tout à l'heure parler justement du travail de recensement à travers ce que vous présentera tout à l'heure Laurent. Mais est-ce que 68, c'est vraiment le déclenchement de, je dirais, son travail méthodique sur la police ? Alors avant, ça parcourait un petit peu les luttes de partout, mais c'est vraiment ça qui l'a incité à... Alors avant l'histoire de Macomé, quand il a effectivement créé l'OLP, mais...
Mais 68, c'est le déclencheur de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que sur la police, avec les violences policières inouïes auxquelles il a pu assister, parce que il était tous les soirs au quartier latin. Hein, alors, il n'était pas forcément en première ligne, il ne bassinait pas forcément des pavés, mais on le voyait partir en fin de journée, il revenait qu'au petit matin, et il a assisté à des choses absolument inouïes. Donc je pense que quand il a commencé à recenser les violences policières et la répression, parce que ça va plus loin que les violences policières, c'est la répression en général, à partir de l'automne 68, je pense qu'il n'avait pas forcément en tête ce qu'il allait en faire, mais il savait que c'était important de le faire. Voilà. Qu'il fallait créer cette base de données, il fallait pouvoir conserver cette mémoire des violences et de la répression.
Alors pour ceux qui ne sont pas encore allés à Nanterre, à la Contemporaine, qui est la grande bibliothèque qui est sur le campus de Nanterre, donc il y a une exposition jusqu'à la semaine prochaine, samedi 16 mars. Ça s'appelle Riposte. Il y a deux grandes pièces, donc de 70 à 74. En gros, c'est les mouvements de... C'est pendant le mandat de Marcellin. Et donc vous rentrez dans l'expo, il y a une petite vitrine, alors c'est très mignon. Et il y a quelques petites boîtes des fameuses fiches Bristol de Maurice. Et avec un petit cartel très mignon. C'est vrai que c'est assez émouvant, même si bon, ce ne sont que des boîtes en plastique avec des fiches en papier.
Ou en bois, oui. Et quelques fiches qui sont mises en avant. Bah, c'est les 60 boîtes contenant près de 30 000 fiches. C'est les premières archives qui sont parties très vite à Nanterre parce qu'on ne voulait pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les archives de Maurice sont à la Contemporaine, qu'elles soient militantes, professionnelles ou d'ordre éditorial. C'est-à-dire qu'il y a toute la correspondance avec ses éditeurs, avec des lecteurs. Enfin, il y a plein de choses. En mètres linéaires, c'est près de 90 cartons. Quoi.
Vous savez qu'on se dit souvent, quand les violences policières en fait, deviennent, reviennent à la une, moi je me dis toujours qu'est-ce que Maurice il aurait pensé, qu'est-ce que Maurice il aurait pu dire dans ce moment-là. Mais c'est pareil pour le conflit israélo-palestinien. Là, en plus, on est en plein dedans. Ça aussi, c'est sa deuxième vie, quoi, militante, quelque part. Son besoin de savoir ce qui se passe en Palestine, les voyages qu'il a fait, on en a parlé.
C'est-à-dire qu'il était un peu sur tous les fronts. C'est vrai qu'il y a effectivement la dénonciation. Il était lanceur d'alerte pendant 20 ans sur les violences policières. La question palestinienne ou la question juive étaient les questions qui l'importaient énormément. Et il a écrit ses premiers livres sur l'antisémitisme et sur... Enfin, version nazie, bien entendu. Et puis, à partir du moment où il a commencé à écrire, il y a aussi d'autres questions, effectivement, qui sont revenues, comme celle de la question palestinienne. Il est allé plusieurs fois, il l'explique dans le film, et il a rédigé plusieurs livres, il a pris des positions avec toujours... c'est pas une ambiguïté, c'est que... Lui se réclamait, ne se qualifiait pas de juif, il l'explique dans son bouquin qui s'appelle « Quand j'étais juif ».
Quand j'étais juif,
ouais. Quand il y avait des questions importantes et éventuellement ou des pétitions ou des mouvements où il était important d'être présent, oui, il n'hésitait pas à signer des appels de juifs antisionistes ou de juifs pour la Palestine, même s'il récusait le fait lui-même. Lui, il dit « J'ai été juif le 16 juillet 42, et avant je ne l'étais pas ». La question ne se posait pas dans la famille. On n'était pas religieux, on n'allait pas à la synagogue, on ne fêtait rien. Il y avait éventuellement une cuisine qui venait d'Europe centrale. C'était le seul lien qui était un peu culturel ou culinaire, quoi. Et puis, il y a le combat antifasciste, qui est un combat de toute sa vie, anticolonialiste.
Le front, ouais.
Parce que, en fait, la question de la Palestine, c'est aussi le combat anticolonialiste. Hein, ça rejoint à la fois ses combats pendant la guerre d'Algérie, sur lequel il est extrêmement, discret dans le film, mais sur l'antifascisme, il a fait partie des 250 qui ont créé Ralph Front en 1990. Il en a été le président pendant quelques années. C'est lui qui recevait les menaces de la justice. Il a sillonné la France avec Ralph Front pendant plusieurs années pour des meetings. Quasiment toutes les semaines, il y avait un meeting à l'autre bout de la France. Enfin, moi, j'étais plus à la maison, j'aurais pu partir, mais enfin, je savais qu'il était à tel ou tel endroit. Puis après, pour ses livres, il était dans tous les salons possibles et imaginables. Il est allé dans les écoles, il est allé dans les collèges, dans les lycées, à la demande de profs qui connaissaient son travail. Il l'a fait les dernières années à Cachan. Ils habitaient à Cachan, donc à partir de 95, et il se trouve que ça fonctionnait assez bien avec la municipalité, et chaque année, il allait dans, je crois qu'il y a au moins deux collèges à Cachan, il allait dans les collèges de Cachan pour parler de la guerre, pour parler de la rafle et de la collaboration, et l'antisémitisme de ces années-là.
Vous écoutez Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire, et cette semaine, comme vous l'entendez, on parle de Maurice Rachfus, infatigable militant antifasciste libertaire, qui nous a quittés le 13 juin 2020. Nous étions donc à la BAM de Malakoff, en compagnie du fils de Maurice, Marc Plocky, et de l'équipe du site Antimédia, qui reprend donc le flambeau dans l'archivage quotidien des exactions policières. On en reparle en fin d'émission.
J'ai vu des hommes m'attraquer, j'ai vu des femmes bousculer, j'ai vu des grenades claquer, j'ai entendu la foule hurler. Ah, le joli mois de mai à Paris. Ah, le joli mois de mai à Paris. J'ai vu des rêves s'éveiller, j'ai vu la révolte gronder, j'ai vu des bottes piétiner, les drapeaux de la liberté. Ah, le joli mois de mai à Paris. Ah, le joli mois de mai à Paris. J'ai vu le printemps nous venir se répandre dans les quartiers. J'ai vu partout le vent tourner. J'ai senti l'espoir se lever. Ah, le joli mois de mai à Paris. Ah, le joli mois de mai à Paris. J'ai cru que la vie allait changer, j'ai vu la vérité bafouée, la honte et la boue refluer, la sénilité s'étaler. Ah, le joli mois de mai à Paris. Le jour va se lever sur les champs, villes et ateliers. La révolte ressuscitée enterre le vieux monde décédé. Ah, le joli mois de mai à Paris. Ah, le joli mois de mai à Paris.
Après ce joli mois de mai à Paris, vous allez entendre Ramata Dieng. C'était quelques jours après la mort de Maurice en juin 2020, lors de la commémoration d'ailleurs, en hommage de son frère Lamine. Ramata passera la parole à Marc, le fils de Maurice, donc pour dire quelques mots, et on revient à la BAM juste après.
France qui a fait le recensement des victimes de violences policières depuis mai 68. Il est décédé samedi dernier à 82 ans. Cet homme nous a inspirés dans le combat que nous avons mené pendant 13 ans. C'est un modèle, c'est un exemple. Et donc, je vais donner la parole à son fils pour un petit hommage. Merci beaucoup.
Chers amis, chères familles, chers camarades, merci de nous avoir conviés ici. Je représente également ma sœur qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous sommes très touchés, très émus de cet hommage à notre père Maurice. Il a rendu son dernier souffle samedi dernier, alors que vous étiez certainement parmi ceux qui manifestaient ici, nassés par la police. Il est parti juste avant 17h samedi dernier. Maurice avait le sens de la synthèse et de la formule. Il a écrit ces trois phrases concernant la possibilité pour n'importe quelle personne habitant ce pays de croiser le chemin de policiers peu enclins à engager le dialogue. Je le cite. Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émeute.
Juste quelques mois avant son décès, il allait encore à des réunions de soutien. On l'a vu tout à l'heure, le réseau Vivolé avec la famille Dieng. Il était très lié à la famille Dieng. Il les a beaucoup soutenus, ça encore jusqu'en janvier-février 2020. Je l'ai su qu'après, ça. Parce que moi, je suis devenu aussi très copain que la famille Dieng. Ils m'ont montré des photos, moi, je ne savais pas du tout. Il est jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a maintenu le flambeau.
C'est clair. Ces livres, c'est un acte militant extraordinaire. Enfin, moi, je l'ai découvert comme ça. Et c'est une trace d'histoire, de mémoire exceptionnelle, en fait. Ce qu'il a fait sur les violences policières, le référencement, l'archivage, la mémoire qu'il a mis en place, c'est incroyable. Et puis, en plus d'être intégré avec Ralph Ronce sur le fascisme, et toujours d'être en lien toujours avec les concernés, quoi. C'est pas seulement un commentaire effectivement distant, c'était quelqu'un qui vivait la chose, quoi, qui l'avait vécu. Enfin, la violence policière de la rave du Veldiv, ça me perturbe quoi, encore. Quoi.
Alors, tous les numéros de Que fait la police sont disponibles en ligne, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est une version qui a été expurgée des dessins de tous les dessinateurs qui avaient participé à l'aventure. On a tous les numéros, y compris la déclaration de l'OLP de départ, d'avril 94 à avril 2014, y compris avec le dernier petit mot en disant « j'espère que la suite sera prise ».
Et dans ces archives qui relatent des violences policières, est-ce qu'il cite l'état civil des policiers en question, des personnes qui ont été arrêtées, qui ont été suppliciées? Est-ce qu'on peut vraiment retrouver l'état civil de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute sur ces personnes, ou c'est simplement des noms qui ont été modifiés pour préserver l'anonymat?
Les archives en question, pour l'essentiel, ce sont des coupures de presse. Puisqu'en fait, à partir de la rentrée 68, il découpe dans la presse tout ce qui concerne la répression et les violences policières. Donc, s'il y a des noms, ce sont les noms qui sont indiqués par les journalistes ou que la préfecture de police ou que telle force de police a bien voulu s'infiltrer. Donc, ça peut être aussi des pseudos ou des noms d'emprunt. Après, quand il a commencé à rédiger ses bouquins, est-ce qu'il est allé plus loin? Ça, je ne pourrais pas répondre à la question. Mais en tout cas, si on veut aller consulter les fameux fichiers, on peut le faire. Je ne sais pas s'ils sont en cours d'être numérisés ou pas, mais en tout cas, c'est de l'information brute. C'est ce qu'il explique dans le film. Il dit qu'il ne veut pas, à aucun moment,
que ce soit dans le bulletin que fait la police ou dans ses bouquins, qu'on puisse lui reprocher d'inventer ou d'amener des informations qui n'auraient pas été recoupées ou vérifiées. Et donc, à chaque fois, il fait référence à un article du Monde, à un article de Libération, à un article de Combat, à un article de je ne sais pas quel
même
journal.
La presse locale aussi, souvent.
Et la presse locale, oui. Et puis même, je crois qu'à partir des années 2000, il y a même 20 minutes, parce que même si c'est un torchon, des fois, on trouve des entrefilets qui sont intéressants dans 20 minutes.
Alors, je crois qu'il a fait un livre sur l'affaire Thaïs d'un jeune qui était, je crois, séropositif, et c'était au moment... c'est ça, non, où je me trompe?
Oui.
Et là, il a fait vraiment l'enquête, il a fait la contre-enquête sur cette affaire-là, avec les circonstances de l'arrestation, le manque de soins en garde à vue. Donc ce jeune homme a été vraiment laissé en train de crever dans sa cellule. Et là, il a refait l'enquête. Donc il a repris toutes les expertises, qu'il a réanalysées. Et là, j'imagine qu'effectivement...
C'est 2005, 2006,
ouais, c'est ça. C'était paru à l'Esprit Frappeur, un petit bouquin, format poche. Et effectivement, là, il a repris toute l'enquête. Donc là, tu peux être sûr que tous les keufs qui sont impliqués, ils sont cités nommément. Même, je crois qu'il y a les juges aussi qui sont balancés, il y a le procureur, etc. Et c'est assez rare hein, qu'il soit lancé dans un ouvrage, une monographie sur un seul cas. Parce que là-dessus, il avait toutes les... Je dirais toutes les cases étaient cochées dans l'ignominie quoi, de la police, l'arrestation sans aucune raison, le manque de soins et le fait que c'était un jeune basané quoi, qui était d'origine étrangère. Et là-dessus, vraiment, enfin, c'est un travail vraiment de... Je l'ai relu des années après et franchement, c'est un travail énorme. Cette contre-enquête-là, elle est vraiment prodigieuse. Quoi,
voilà, autrement, sur l'exploitation de son fichier, ça a donné lieu, tu parlais de l'Esprit Frappeur, il a édité une petite dizaine de livres à l'Esprit Frappeur dont les contenus sont tous extraits de son fichier, c'est-à-dire qu'il a exploité son fichier de façon thématique. Il a sorti un bouquin qui s'appelait Police et droits de l'homme, un autre qui s'appelle La police et la peine de mort, il y en a un autre qui est innommable sur le vocabulaire policier, et à chaque fois c'est sorti effectivement de ces différentes fiches, où après il organise, il rédige en fonction de la façon dont il voit les choses, mais c'est vrai qu'on peut dire que ce fichier, cette base de données, parce qu'on peut l'appeler comme ça, même si elle n'est pas de nature informatique, mais ça lui a permis effectivement de reprendre des thématiques et d'aller chercher l'information là où il pensait qu'il allait la trouver, ou même revenir sur des fiches, retrouver des informations qu'il avait éventuellement oubliées, mais ça lui a servi de base pour énormément de ces petits bouquins d'intervention.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent intervenir ?
Je vais revenir un peu en arrière. J'ai appris l'année dernière, j'étais pas au courant, qu'il y avait eu une première rafle en 41.
Oui.
Qu'ils ont appelé ça la rafle.
C'est une convocation.
Voilà.
Ils ont convoqué des milliers de juifs parisiens, alors qui étaient des juifs étrangers apparemment.
Des juifs étrangers, oui, absolument.
Qu'ils avaient convoqué.
Un fameux billet vert. Voilà, ils étaient convoqués dans les commissariats. Des commissariats, on les a amenés à la salle Japy. De là, on leur a dit, vous pouvez prévenir vos familles pour qu'ils vous fassent un baluchon et qu'ils vous l'amènent. Et le soir même, c'était le 14 mai 41, le soir même, ils étaient à la gare d'Austerlitz. Ils partaient pour les camps du Loiret, Pithiviers et Boulle-la-Rolande. C'est la première... Alors, c'est pas une rafle au sens où on l'entend comme ça du 16 juillet, puisque c'est une convocation. Mais comme Maurice l'expliquait tout à l'heure, ils ne voulaient pas être en dehors de la légalité. Ils ont répondu à cette convocation sans savoir ce qu'allait se passer derrière. C'est la première du genre. Hein. Et je ne sais plus si c'est 6 000, 7 000 hommes, je crois, qui ont été embarqués dans cette rafle du billet vert. C'est plusieurs milliers, en tout cas.
Et est-ce que tu as le souvenir qui t'est parlé de cette convocation? Est-ce que... Comme ton grand-papa, son papa était d'origine polonaise.
Il m'en a beaucoup parlé, tout simplement. D'abord, mon grand-père n'a pas été concerné. Par contre, ses deux oncles, qui étaient des jumeaux, eux ont été effectivement convoqués le 16 mai 41. Aaron et j'oublie le prénom de l'autre, mais ça va revenir. Et tous les deux sont partis le soir même à Boulle-la-Rolande. Et ils sont partis ils sont partis directement de Boulle-la-Rolande par le convoi numéro 4. C'est un des premiers convois de fin juin ou début juillet 42. J'ai plus la date exacte en tête. Mon père a conservé, c'est dans les archives de la Contemporaine, une carte d'anniversaire qu'un de ses oncles lui a envoyée de Pithiviers. C'est un artiste autrichien qui réalise une vue du camp. Ce n'est pas d'une grande gaieté, il y a des barbelés, il y a des nuages, mais il y a aussi les baraquements. On reconnaît l'église de Pithiviers. Voilà. Et au dos, il y a pour Maurice, pour son anniversaire, je n'ai pas oublié, etc. Truc qu'il a conservé, que je savais, c'était dans son bureau, il me le montrait régulièrement. Et ça fait partie des archives qui sont aujourd'hui à la Contemporaine. Donc oui, lui était directement impacté familialement par le 16 mai 41. Oui. Il a su tout de suite de quoi il s'agissait. Il a même le souvenir d'y être allé pour essayer d'apercevoir ses oncles et d'amener...
Alors, j'espère qu'on ne va pas finir sur cette question. Je vous entre.
Oui, c'est un peu pour moi.
J'ai encore une, encore pire. C'est évidemment, quand on a une vie de militant comme ça, d'historien sur des sujets, enfin, parler des violences policières déjà dans les années 70, enfin, tout ce travail aussi de mémoire sur la rafle, sur les juifs et la collaboration, enfin, tous ces combats, en fait. Forcément, tu te fais des amis, mais aussi tu te fais des ennemis. Alors, c'est un truc un peu personnel que je voudrais te poser, mais est-ce que toi, vous avez eu des menaces, ce genre de choses, parce que forcément, tu touches à des trucs aussi sensibles, surtout.
Après mai 68, dans les années qui ont suivi, les RG venaient souvent dans le quartier, interroger les voisins. Parfois, ils frappaient à la porte. Voilà, ma mère les éconduisait. Ça, c'était pas très très méchant. Le seul truc un peu violent auquel Maurice a dû faire face, c'est un coup de fil de... Comment il s'appelle celui qui voulait être calife à la place du calife, là, au FN. Là, l'universitaire de Lyon, dont le nom m'échappe, Gollnisch. Quand il était président de Ralfron, un jour, il a reçu un coup de fil de Gollnisch, menaçant, en disant qu'il fallait que ça s'arrête, autrement, ça deviendrait compliqué.
Mais ils n'ont pas cherché à faire disparaître le fichier.
D'abord, je ne sais pas s'ils savaient qu'il existait à l'époque, parce que en fait, très peu de gens savaient que ce fichier existait. Hein. Non, ce fichier, à part quelques militants, des amis, la famille, pas grand monde savait que ce fichier existait. C'est un article de Libération de décembre 2019 qui a fait connaître ce fichier, et à la fin, où les journalistes commençaient à dire « mais le fichier va peut-être disparaître, attention, etc. » Et ça a beaucoup amusé Maurice, parce qu'il était déjà un peu en contact avec la contemporaine, donc il n'était pas question que le fichier disparaisse. Mais c'est vrai que après sa disparition, quand Maurice est décédé, on a veillé à ce que le fichier soit rapidement mis à l'abri. Mais à part ces deux éléments-là, les RG et Gollnisch, j'ai pas eu connaissance qu'il y ait eu... Alors après, si, à travers la presse, oui, ou éventuellement à travers les heures et malheurs avec, je sais pas, Viviorca ou d'autres qui portaient pas... Enfin bon, avec lesquels c'était compliqué parce que il usurpait le titre d'historien, mais autrement, à part ça, non, il n'y a pas eu... ou de menaces réelles ou de violences particulières. Je sais que quand il était encore à Ralfron, il était très très protégé par les militants pour qu'il effectivement il n'ait pas de problème. Quand il se déplaçait pour des meetings de Ralfron, il était toujours accompagné. Enfin bon, oui, il faisait attention à lui.
Ça existe, des cambriolages avec des cambriolages de fichiers, des disques durs, oui, qui disparaissent, des appartements.
Alors avec Maurice, les disques durs,
oui, non, ça risquait pas, mais
ça risquait pas.
Mais non, mais
il a tapé à la machine jusqu'au dernier moment. On lui a offert, je sais pas, 4 ou 5 traitements de texte. Quand on a déménagé l'appartement, les traitements de texte étaient les uns sur les autres, on les a mis sur le trottoir. Il n'a jamais su, enfin, ou jamais réussi à accrocher à, effectivement, un traitement informatique de la saisie. Donc il y avait sa vieille Remington pour laquelle il peinait à trouver des rouleaux encreurs. Mais bon.
Oui, c'est ça. Et après, tous les bulletins, il les écrivait sur sa machine, il les envoyait. Un camarade qui s'appelait Pedro, tu vois, qui c'est Pedro ?
Ouais, non, c'est pas Pedro qui faisait ça, hein. C'était ma sœur et moi.
D'accord.
Nous étions les clavistes de Que fait la police.
Tu retapais tous les textes
Il me les envoyait par la poste, ou quand je passais chez eux, il me les passait, et je ressaisissais tout et j'envoyais à Pedro.
Et t'envoyais à Pedro qui publiait sur samizdat.net.
Voilà. On a fait ça pendant des années, ma sœur.
Comme quoi, vous avez mes contributions, quoi, alors c'est pas... Hein.
Oui, mais enfin bon, on n'était plus à la maison, on était déjà grands, on avait nos vies, mais ça n'empêchait pas de filer le coup de main parce qu'on pensait que c'était nécessaire.
Il n'a pas cherché à faire une monographie sur Mulot.
Bah, compliqué, parce que d'abord, je ne sais pas s'il a eu accès à son dossier. Il a essayé de le joindre, il avait retrouvé sa trace, il l'a même appelé au téléphone, et l'autre lui a répondu tout de suite, ça ne m'intéresse pas, il a raccroché. Et mais oui, dans un petit bouquin aux éditions de l'Esprit Frappeur, il en parle, il raconte ça, parce que dans ce petit bouquin dont le titre m'échappe, mais qui va me revenir dans quelques instants, c'est à l'occasion d'un des anniversaires du 17 octobre 61, où il y a une exposition à la préfecture de police qui retrace 100 ans de préfecture de police avec des grands flanchons. Et donc, il va faire un bouquin là-dessus en disant que c'est une fumisterie, parce qu'il ne parle pas de la collaboration, il ne parle pas du 17 octobre.
Il parle de la libération du mois d'août qui, soi-disant, a été héroïque de la part de la préfecture.
Les résistants de la 25e heure qui seront décorés de la fourragère par De Gaulle, parce qu'il faut bien que l'ordre règne après la libération. Donc il n'est pas question de faire trop de dégâts dans la police. Alors il y a eu quelques milliers de révoqués, il en parle dans ce fameux livre dont le titre va me revenir. Hein, c'est pas bien grave. Quelques milliers de révoqués. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en 52, le préfet Bello va quasiment tous les réintégrer avec un rattrapage d'ancienneté, enfin tout ce qu'il faut, quoi.
Il en parle aussi, c'est plus dans quel est, oui. Il voit des plaques commémoratives, justement, policiers qui libèrent Paris et qui ne parlent pas des policiers qui ont collaboré pendant les 5 ans précédents et qui deviennent des résistants. Je crois qu'il le dit comme ça, qui deviennent des résistants à partir du moment où les Américains sont genre à 10 km de Paris, quoi.
Oui, c'est l'arrivée des Américains, oui, bien sûr. Les collabos d'hier deviennent les héros du jour, quoi.
C'est aussi ça qui est drôle aussi une particularité de Maurice, c'est aussi son humour, quoi. C'est pour parler de ces moments tragiques, en fait, hein, de la collaboration, enfin, et puis la collaboration des policiers, ils étaient proactifs, en fait, ils faisaient même des choses, donc ils en parlent, ça, ils faisaient des choses qui n'étaient même pas demandées, en fait. Hein,
c'est devant les ordres.
Et voilà, c'est ça, et il a toujours...
C'était sa résilience. Hein,
il a toujours cette petite phrase, petite touche d'humour, toujours.
C'est la mise à distance aussi.
Là, on est toujours à la BAM, la bibliothèque associative de Malakoff, une soirée consacrée à Maurice Rachfus. Et là, donc, on va passer à la présentation d'un projet dont Laurent Théron va nous parler.
Voilà, moi j'ai un rapport aussi très douloureux avec la police, puisque j'ai été borné en 2016 pendant la loi travail par un CRS qui jette une grenade de désencerclement comme ça sur la place de la République. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au sujet des violences policières, à rencontrer d'autres familles de victimes aussi, donc la famille Diem dont tu parlais tout à l'heure, Marc, à qui j'étais aussi. Mais je suis toujours très très proche d'ailleurs. Et il se passe que donc quelques mois après, alors je retourne à une manifestation. Je crois que c'est, enfin, je suis borné en septembre 2016. Je crois que c'est le 1er mai 2017. Je vais à une manif et là je vois des camarades qui présentent des livres. Et là je tombe sur le livre de Maurice qui s'appelle Je n'aime pas la police de mon pays. Et là je vois ce livre. Et je me dis, ouais, c'est incroyable comment quelqu'un a pu écrire ce livre à ce moment-là.
Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt?
Et là, je vais commencer à lire les livres de Maurice et je vais voir tout son travail sur les violences policières, en fait. Je lis plusieurs livres. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'était Bavure, Ordre public, désordre privé. Et il classe tout par catégorie, avec les crimes, avec les viols, les agressions racistes, enfin. Et un jour, voilà, on va le rencontrer. Donc on va même l'inviter à un moment pour faire un événement à la faculté de Nanterre. Et puis quelques années après, donc il y a 2 ans exactement, bon, ça me trottait aussi un petit peu dans la tête de reprendre ce travail qu'il a fait donc entre 1994 et 2014. Et puis voilà, puis je me suis lancé un jour. J'ai commencé à collecter moi aussi des articles. Et en fait, dès le début, je commence comme ça. Et dès le premier mois, je me retrouve complètement débordé par le sujet, en fait. C'est-à-dire que dès le premier mois, en 2022, c'est un petit clin d'œil aussi. J'ai commencé aussi en avril, comme sa page avait commencé en avril aussi. Et premier mois, je me retrouve avec 65... Alors, c'est pas des articles, c'est des... c'est des affaires. On se contente, en fait, sur le site que vous voyez à l'écran, de faire une affaire, un article, en fait. Alors, c'est un site qui s'appelle antidotemedia.noblogs.org, et je l'ai appelé l'antimédia. Alors, c'est pas... Alors, quelque part, c'est antimédia, mais pas quelque chose, on va dire, de réactionnaire. C'est, à la base, c'est anti.média. Dans le sens où c'est, on va dire, moi j'assume totalement, anti-flic, anti-rouleau compresseur judiciaire et anti-prison, anti-enfermement, média. Mais c'est aussi un outil anti-média dans le sens où, comme Maurice, en fait, on s'amuse, entre guillemets, à écorner cette image du policier qui est fabriqué par les médias, c'est-à-dire du gentil policier, aussi de la police, de la justice réparatrice et d'une prison qui serait bienveillante. Donc on a un peu élargi le sujet, c'est-à-dire qu'on a tracé un axe, l'axe autoritaire en fait, hein, qui est les outils de l'État, qui sont la police pour réprimer, la justice pour envoyer en prison et la prison pour enfermer. Et donc voilà, plusieurs fois par semaine, on fait des revues de presse et on collecte comme ça les articles. Je vais juste d'abord commencer par vous lire ce petit phrase, enfin ce petit texte qu'on a fait, puisqu'on est en une soirée hommage à Maurice. Donc c'est un monsieur qui s'appelait Maurice Rachfus, avait salement épluché l'actualité pendant 20 années à la recherche de bavures policières. Il a commencé sur une machine à écrire, sa page mensuelle a continué en ligne. Donc on met un lien, justement le lien avec sa mise date, que fait la police. Il découpait les articles dans les articles ont rempli des classeurs, les classeurs des étagères, puis des armoires et finalement sa maison. Enfin, il a eu des livres et donc beaucoup de livres et on met aussi le lien vers le site des amis de Maurice, Rachfus. Voilà, et donc on décrit, on rend hommage vraiment au travail de Maurice et on essaye, voilà, depuis 2 ans de collecter les articles comme ça. Alors on est en pleine construction. C'est-à-dire que c'est totalement pas arrêté, on est en révolution permanente, on peut dire. On fait un travail donc à la fois de recensement et d'archivage. Et ce travail, en fait, je ne l'ai pas lancé pour reprendre le travail de Maurice. Mais en fait, on fait partie, en tant que victime et famille de victimes, d'un réseau qui s'appelle le réseau d'entraide, vérité et justice. Et on essaye de préparer, en fait, les familles et les nouvelles victimes à... De quoi on parle, quoi? C'est quoi une violence policière? Qu'est-ce que les violences d'État? Et en fait, à travers le travail de Maurice et à travers ce travail qu'on a mis en ligne, c'était aussi de caractériser la violence policière et au quotidien. Qu'est-ce que c'est la violence policière, quoi? Donc, il y a les morts, il y a les mutilés, il y a les blessés, mais il y a les injures, il y a des personnes. Enfin, il y a aussi le policier hors service qui, maintenant, leur service ne veut plus rien dire, puisque. Ils peuvent arrêter, ils arrêtent des personnes en dehors de leur service. Ils ont leurs armes en service, ils tuent des gens hors service. Et de la même manière aussi, comme Maurice le décrivait, la justice prolonge cette violence policière, les innocentes fabriquent le non-lieu, etc. Les familles et les victimes qui arrivaient sur ce réseau, il fallait à chaque fois leur dire « bon, à quoi vous avez affaire en fait ?» C'est pas nouveau, et donc c'était aussi préparé, c'est un outil pour les familles et les victimes, pour leur faire prendre conscience à quoi elles vont devoir faire face. La police, la justice, à l'État, en fait, tout entier, en fait, comment il met en place sa répression et ses outils de domination. Voilà, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. Je vais introduire deux de mes camarades qui sont ici présentes. Donc, Isa.
Moi, ça m'a intéressé, en fait, de rejoindre l'antimédia, peut-être... Parce que je suis bibliothécaire, que je voulais aussi agir contre les violences policières, et donc ça avait tout son sens pour moi de participer à ce travail d'archivage et de conservation, enfin de conserver la mémoire en fait de ce que fait la police, qu'il y ait une trace qui soit stockée quelque part. Alors avec les outils, donc maintenant on n'est pas en train de découper effectivement des articles de journaux dans la presse, mais on s'appuie aussi, comme le faisait Maurice, sur des articles parus dans la presse, y compris la presse régionale, enfin tout ce qui nous permet en fait d'avoir les faits. Ça s'inscrit à la fois dans une certaine... Enfin, il y a une similitude avec ce que faisait Maurice, mais il y a aussi une grande différence, c'est que lui constituait une archive pour lui dans des boîtes, et ensuite il écrivait. Alors que nous, en fait, on constitue l'archive, mais on la publie. Et ça, c'est un geste qui est assez différent, qui peut nous mettre en difficulté aussi dans des décisions qu'on doit prendre, parce que on se fait aussi quelque part le relais de ce qui est publié dans la presse. Donc on fait attention à choisir les articles les plus factuels possibles, parce qu'on cautionne pas forcément tout ce qu'ils contiennent. Voilà, et puis en fait, bon, c'est vrai que dans l'idéal, on aimerait bien aussi produire des analyses, en donner une lecture critique, mais par manque de temps aussi, en fait, on publie ce qui se passe au quotidien. Donc au départ, on avait un peu cette crainte que ce soit qu'on soit que dans du constat et que on risque effectivement de relayer des articles au contenu qu'on cautionne pas, comme je l'ai déjà dit. Mais finalement, cette accumulation, cette répétition des mêmes faits au quotidien, quand on la déroule comme ça, on voit que ça fait sens déjà tout seul, quoi. En fait, c'est ça qui est assez incroyable, quoi. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut s'en tenir à ça. C'est-à-dire que si l'équipe pouvait s'agrandir et si on pouvait effectivement produire des analyses, ça serait encore mieux. On essaie aussi de relayer le travail de Résistons. On a fait un lien aussi.
Résistons ensemble, c'est un bulletin qui existe depuis 20 ans maintenant, depuis 22 ans.
Voilà, donc on essaie de relayer des analyses qui sont faites par d'autres collectifs amis qui font ce travail-là. Et puis, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit un outil, un outil qui permette des recherches et qui permette aussi à toutes les personnes qui veulent résister et lutter contre les violences policières, de s'en saisir et de s'appuyer en fait sur cette documentation pour pouvoir en faire quelque chose. Et là, le mieux, ça serait que cet outil nous échappe et que tous ceux qui le souhaitent s'en saisissent pour faire des choses. Alors on a fait, parmi des choses qu'on a lancées, il y a eu une carte, donc on établit la liste des personnes tuées par les forces de l'ordre en faisant à chaque fois un lien vers les articles qui sont publiés. Et on a produit pour 2023 une carte des personnes tuées par la police. Avec donc à chaque point correspond à une victime, et pour chaque victime il y a un lien vers les articles qui ont été recensés dans l'antimédia. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire à partir de la base qui est constituée. On a aussi fait des affiches en fait où on reproduit des articles. Bon, en fait, les affiches sont chaque affiche est un article de presse, et l'idée, c'est de remettre dans l'espace public, en fait, parce que la crainte aussi, quand on fait un outil sur Internet comme ça, c'est que finalement, les seuls destinataires soient les personnes qui sont déjà concernées et qu'on tourne...
Déjà au courant.
Déjà au courant, oui, c'est ça, déjà informé en fait du sujet. Et donc, l'idée avec les collages, c'est d'aller dans la rue, sur les abris de bus, sur là où les distributeurs justement de 20 minutes les recouvrir avec des affiches qui vont être des articles de contre-attaque ou autres. Et sinon, prochainement, par exemple, je ferai une intervention auprès d'un collectif et on a l'intention de faire des lectures, en fait, des extraits d'articles et de faire des podcasts à partir de ça. Donc l'idée, c'est qu'il y a une base de données, il y a des articles, mais que ça peut être utilisé pour que ça puisse prendre place aussi dans d'autres, sous d'autres formes, dans la rue, sur les ondes.
Mais quand il y a une affaire qui tombe dans la presse, généralement ça foisonne, tous les articles sont reproduits, il y en a 50. Ouais. Comment vous faites le choix de dire on prend le Parisien, on prend Libé
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on choisit toujours celui. Alors, bon, d'abord, il y a beaucoup d'articles qui sortent, mais il y a beaucoup d'articles qui sont exactement identiques.
Et c'est l'AFP qui reprend.
Voilà, en fait, c'est pas vraiment des articles écrits par un journaliste. Ils ont été dictés. Bon, entre l'un ou l'autre, article absolument identique, là, je sais pas, c'est pas... Après, il y a des choses qui sont... On va peut-être privilégier celui qui est accessible directement au texte intégral, il y en a d'autres qui sont payants, donc s'il y a la même chose, et on va privilégier celui qui est gratuit. Mais sinon, surtout, on garde celui qui est le plus factuel et on ne met jamais des choses en faveur de la police, par exemple. On fait un tri, parce que comme je disais tout à l'heure, si c'était notre archive personnelle à partir de laquelle on écrive des choses, peut-être qu'on garderait aussi des choses avec lesquelles, enfin, sur lesquelles il y a en partie des gros problèmes. Mais là, comme on les publie, on ne va pas le faire. Ou alors, il y a eu, à contrario, ça arrive qu'il y ait, qu'on ne trouve qu'un seul article et que cet article soit problématique. Ça nous est arrivé pour quelqu'un qui est décédé.
Dont le traitement est problématique.
Dans le traitement est problématique, pardon, oui. Donc ça nous est arrivé par exemple pour un jeune qui s'était pendu en prison. Et là, on voulait absolument le signaler parce qu'on n'avait pas, trouvé de source bien, quoi. Et donc il y avait un article qui était en fait que basé sur un témoignage d'un syndicaliste, enfin d'un maton, quoi. Et donc c'était sa version à lui, et c'était, le contenu était odieux, en fait, quoi. C'était uniquement le ressenti des matons. Ça va, ils ont bien supporté. Donc là, à ce moment-là, on a cité l'article, mais on a écrit un texte, nous, en disant pourquoi on voulait en parler et pourquoi l'article était problématique.
Voilà, oui. c'est aussi le but de ce site. C'est effectivement créer une base de données, une base d'archives, et que derrière, quiconque a envie de produire sur n'importe quel thème, même avec sa propre créativité, comme Isa le fait avec les affiches. Voilà, se servir de cette base pour créer quoi que ce soit, en fait, derrière, créer une carte sur les tués, etc. Enfin, et aussi, maintenant, on essaye aussi d'élargir un petit peu, de se faire connaître. En tout cas, si vous avez des amis qui n'aiment pas la police... et que ce sont des personnes de confiance, parlez-leur de notre site, peut-être qu'ils sont intéressés par un projet. On a un lien contact, et même maintenant, on vient de lancer une page Instagram. Et on a relié la soirée de ce soir, bien sûr.
Et voilà, je vais juste faire une toute petite intervention aussi. Moi, c'est Lou, et j'ai rejoint l'Antimédia il n'y a pas très longtemps. Et c'est juste pour expliquer comment on... Enfin, revenir sur comment on choisit les articles, comment on les recherche. En fait, on fait des revues de presse assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on peut en faire, en général, dans l'idéal, tous les 2-3 jours. En fait, on fonctionne par mots-clés. Et on cherche absolument tous les articles à partir de ces mots-clés-là. Et où on se concentre, du coup, sur les violences policières, judiciaires, carcérales. Et sur les ripoux aussi, les flics ripoux, quoi. Et c'est aussi dans ces moments-là où on doit faire des choix, parce qu'en fait, dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir, par affaire, faire des dossiers et pouvoir avoir tous les articles qui sortent, parce que comme ça, on aurait toutes les informations possibles, etc. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, on sélectionne et on essaie de constituer des dossiers aussi quand c'est possible. On sélectionne et c'est effectivement un article par affaire, ou sinon, on fait... avant le procès, pendant le procès, au moment du verdict, par exemple, on peut faire ces sélections-là. Mais voilà, en gros.
Il y a des candidats à venir donner un coup de main à l'Antimédia, hein? Tout âge accepté, toute origine. Qu'est-ce que t'en penses, Marc?
C'est bien. C'est bien parce que le relais a été pris avec ce que Maurice n'aurait jamais pu imaginer, c'est-à-dire toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui le numérique.
Donc vas-y, tu peux redonner l'adresse du site, parce qu'on est à la radio là.
Alors c'est antidotemedia.noblogs.org.
Antidote, c'est... D-O-T, hein.
Ouais, D-O-T, parce que c'est vraiment, c'était pas le objet. Je voulais vraiment que ça soit anti.media, mais en fait le nom de site anti.media était déjà pris, donc point en anglais c'était dot, donc ça a donné antidote. Voilà, c'est antidotemedia.noblogs.org. Voilà.
Moi, je voulais peut-être ajouter aussi, par rapport à ce que tu disais, le temps que ça prend. En fait, ça prend beaucoup de temps et c'est un temps qui est extensible. C'est-à-dire qu'on... Mais ça veut dire aussi que s'il y a des personnes qui sont intéressées, on peut accueillir aussi des propositions. on peut contribuer à la manière qu'on veut, quoi. Alors on n'est pas parisiens tous, quoi. Enfin, moi je suis à Montpellier. Les collèges, c'est la préfecture de Montpellier, c'est pas celle de Paris. y a un hackerspace à Montpellier, c'est eux qui hébergent le contenu, le texte intégral des articles. Et donc il y a aussi d'autres personnes en fait qui interviennent et d'autres collectifs qui interviennent d'une manière ou d'une autre en soutien. Il peut y avoir des personnes, effectivement, ça manque d'images, qui ont envie de peut-être de contribuer par des dessins ou qui sont graphistes et qui ont envie d'aider à faire des affiches. Donc, bienvenue aux idées.
Mais vraiment, moi, je voudrais revenir sur le travail de Maurice, en fait. C'est à partir du moment où j'ai commencé, moi, à collecter les articles que je me suis dit, j'ai pris conscience déjà que c'était un travail phénoménal qu'il faisait. Mais quand on collecte comme ça, enfin, premier mois, avril 2022, j'en collecte 65 articles, je crois. Aujourd'hui, on est à 140, 150, c'est-à-dire que c'est énorme, en fait. C'est énorme. Et en fait, ce que Maurice a fait avec 30 000 fiches de découper dans des journaux, mais moi, ça me paraît complètement une folie pure, quoi. Déjà, moi, avec un outil informatique, déjà, je galère. C'est là où on se rend compte que Maurice, il a fait un travail, que ce soit sur les violences policières et sur les autres sujets. Est-ce qu'il dormait, Maurice? Moi, c'est une question aussi que je me suis posée à un moment.
Il était sur sa machine dès qu'il se réveillait.
D'accord.
Et jusqu'au moment où il voulait dormir. Il mangeait un peu de temps en temps. Mais... Non, dès qu'on arrivait à la maison, on entendait la machine à écrire dans le bureau. C'était le bruit caractéristique de... C'est de ça. La maison.
Une petite question de plus sur l'association qui s'est créée après la mort de Maurice. Déjà dans quelles circonstances, enfin comment elle s'est créée et avec quels objectifs. Alors vous avez fait une réédition. Pourquoi ces titres-là? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Quel type d'action aussi envisage l'association?
À vrai dire, l'association au départ c'est une instigation d'un certain nombre de proches de Maurice. J'ai pas été embarqué là-dedans malgré moi, mais on n'a pas été à l'initiative de ça. On voulait pas que ce soit une association familiale, c'était pas du tout l'objectif. Donc c'est les gens autour des éditions Libertalia, avec lesquels il était assez lié. C'est les gens autour de Fréquence Paris Pluriel, dont il était le président d'honneur. J'ai appris aussi après son décès qu'il était président d'honneur de Fréquence Paris Pluriel. Comme quoi, on peut apprendre plein de choses. Il y a eu à un moment donné, entre Colin Norito, Guy Dardel, l'idée de on peut pas quitter Maurice comme ça. Il y a des combats, il y a des engagements. Ce serait bien qu'on continue à les faire valoir. C'est comme ça qu'est née l'association, sans qu'on ait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait... Dans un premier temps, sauver les archives. C'était un des premiers boulots, mais ça, on l'a plutôt fait, ma sœur et moi, en direct avec Franck Véron. On voulait aussi sauver la bibliothèque, parce que c'est à la fois une bibliothèque de militants, de chercheurs, d'écrivains. Il y a 5000 volumes. Ça nous faisait mal au cœur de penser que la bibliothèque allait être dispersée. Donc on a mis un certain temps à trouver un lieu d'accueil. Maintenant, la bibliothèque est à Lyon, au CEDRATS, qui est un centre libertaire d'études des mouvements sociaux. Et elle n'est pas encore ouverte, mais ce sera une pièce dédiée aux 5000 volumes de Maurice, où... Voilà, ouverte à tous, une bibliothèque collective, voilà. Et puis, s'est posé aussi rapidement la question, puisque Maurice, il écrivait beaucoup, il publiait beaucoup, mais il a un peu de mal à défendre un peu ses livres, et il était parfois en bisbille avec certains éditeurs, et on s'est dit qu'il y avait quand même des livres qui étaient en déshérence, qui n'avaient pas été réédités depuis très très longtemps. Alors d'abord, ceux qui étaient en déshérence, et pour lesquels il n'y avait pas de bras de fer à avoir avec tel ou tel éditeur. On s'est dit quand même que le premier d'entre eux, c'était le premier paru en 80, qui n'avait pas été réédité depuis au moins 15 ou 20 ans et qui faisait l'objet d'éditions pirates. Donc je me suis dit, faut arrêter avec les éditions pirates, on va rééditer des Juifs dans la collaboration. La police de Vichy était introuvable depuis plus d'une douzaine d'années. Donc là, on n'a pas demandé l'autorisation au Cherche Midi, parce que c'était le Cherche Midi qui était éditeur. On a informé le Cherche Midi qu'il n'était plus l'éditeur des livres de Maurice, parce qu'il ne s'en occupait plus, il ne les rééditait pas. On a réédité son petit bouquin qui était chez Que sais-je, que les puffs avaient mis au pilon sur la rafle du Veldiv fait partie aussi des quatre premiers. Et dans les quatre premiers, il y avait aussi 1953, un juillet sanglant sur le massacre policier de la place de la Nation, le 14 juillet 53. Et puis, il y a eu quatre autres titres en 2022, dont son étude sur Drancy. Il avait été un des premiers à réaliser une monographie sur Drancy. D'autres s'y sont mis après, mais il a été aussi pionnier là, sur cette histoire-là. Oui, en 2022, c'était en plus les 80 ans et de la rafle du Veldiv et de l'année 42. Donc, on a réédité Paris 42 sur les chroniques d'un survivant. En 2022, qu'est-ce qu'on a encore republié ? Une opération Étoile Jaune aussi, puisque c'était les 80 ans de la rafle. Et puis, en 2023, on n'en a publié que trois. On a publié le deuxième tome sur l'UGIF. Là, on n'a pas pu reprendre le titre parce que c'est l'Harmattan qui était l'éditeur d'origine qui voulait pas qu'on reprenne le titre. Ça s'appelait Une terre promise, c'est sur l'expérience agricole dans les Ardennes, où 600 juifs immigrés parisiens, essentiellement des Polonais, ont été envoyés par les soins de l'UGIF avec des promesses absolument incroyables pour aller travailler dans les Ardennes. C'était un esclavage innommable entre la fin 42 jusqu'au 4 janvier 44 où tout le monde a été raflé par les nazis. Les familles devaient être protégées, elles n'ont jamais été protégées. Les appartements devaient l'être aussi, les biens. Rien n'a été fait. Et on a republié aussi en 23, Quand j'étais juif, qui était aussi un livre qui lui tenait à cœur, où il expliquait effectivement son rapport à la judéité. Alors à chaque fois, on a essayé d'accompagner ces livres quand c'était possible d'une préface inédite. Alors c'est le cas pour le 14 juillet 53, c'est Ludivine Bantini qui s'est attaché à présenter le livre. Pour aller aussi en 23, excusez-moi, ce livre qui s'appelle L'an prochain la révolution, c'est sur les communistes juifs immigrés, la MOI. Hein. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours avec cette horreur de la panthéonisation. Et ça c'est préfacé par Olivier Besancenot. L'enfance laïque et républicaine qui a été aussi republié en 23, c'est le polar de Gérard Deltey qui en a fait la préface, qui était très, très ami avec Maurice et avec y compris dans l'aventure Ralfron. On a conservé avec l'accord des ayants droit la préface de Pierre Vidal-Naquet pour des Juifs dans la collaboration. Les projets, pour l'instant, on fait une petite année de pause cette année, à l'exception, on va faire une édition numérique. C'est un essai. Il y a un livre qui avait été publié en 98 aux éditions Paris Méditerranée qui s'appelait en gros et en détail Le Pen au quotidien 87-97. En fait, ce sont des chroniques de Maurice qu'il a réalisées pendant 10 ans. Soit publié dans Ralfron, soit des articles de presse, soit des analyses. Donc c'est effectivement une vingtaine d'articles qui forment ce livre. Ce sera téléchargeable gratuitement sur le site de l'association. Et il y a une très très belle et très très reborative préface de Hugo Paletta, qui est aujourd'hui un des grands spécialistes de la question du fascisme en France. Donc ce en gros et en détail, où il y a une magnifique dessin de Cabu en couverture façon Père Ubu avec une matraque et des croquenots à clous, c'est pour fin mars, début avril. Et si on peut, on fera une autre édition fin août sur un livre que Maurice avait édité au milieu des années 90, mais j'ai plus la date exacte en tête, sur la libération, qui s'appelle La Libération Inconnue. Il revient sur la libération de Paris et de la France, avec effectivement un certain nombre d'éléments qui sont jamais mis en avant par les historiens ou par la grande presse. Donc ce titre pour lequel on essaie de trouver un préfacier pourrait être disponible fin août pour les 80 ans de la libération. Après, en 25, on publiera peut-être le livre sur son père qui s'appelait Mon père l'étranger, mais qui aura un autre titre qui s'appellera Sortir du ghetto. Il y a aussi son livre très important qu'il avait réédité à plusieurs reprises avec Opération Étoile Jaune, mais qu'on avait du coup là séparé. C'est sur la rafle du 16 juillet qui s'appelle Jeudi noir. C'est son récit à la première personne de la journée du 16 juillet. Et on a démarré un travail sur une anthologie des écrits sur la police. On a créé un petit groupe de travail de façon déjà à rassembler tout ce qu'il avait écrit, et pas uniquement des livres, mais aussi des articles, des interventions, etc. De façon à proposer, peut-être dans un livre, je sais pas, 300-350 pages, un peu le meilleur de ce qu'il a écrit sur la répression et les violences. Voilà, avec des historiens, des militants, donc éventuellement un appareil critique, des préfaciers, etc. Mais bon, c'est déjà un peu plus d'ampleur, donc 25, je suis pas sûr, plutôt 26 ou 27.
Je voulais revenir sur un truc tout à l'heure, parce qu'on parlait d'humour de Maurice, etc.
On a publié aujourd'hui sur le site un article sur les 30 ans du premier numéro de Que fait la police.
Avec un dessin de ciné, non, c'est ça?
Mais voilà, c'est ce que je voulais montrer. Parce que le bulletin, il était richement illustré de dessins de Charb, de Tinius, quelques-uns de ciné. Et celui qui l'a plus accompagné, c'est Loïc Faujour. Et Faujour l'a accompagné, pas tout à fait au début, mais à partir de 96 jusqu'en 2014. Et il y a 120 ou 150 dessins de Faujour. Et c'est vrai que ça faisait partie aussi du projet de Maurice. C'est que... Tout ça, c'était des informations absolument détestables, horribles, mais il fallait quand même un peu d'humour pour faire passer tout ça. Autrement, c'était un peu redoutable. Et du coup, j'en profite pour faire une annonce, une page de pub. On est en train de préparer au Musée de l'Histoire Vivante à Montreuil une exposition. Je sais pas si ça a été annoncé à deux ou trois reprises, mais bon, pour l'instant, c'est encore relativement confidentiel. Maurice voulait que les dessins de Faujour soient publiés. Et il a fait toute une introduction pour, en prévision d'un album. L'album n'a jamais vu le jour, mais du coup, on a réussi à mettre en place un projet d'exposition qui est une confrontation entre Faujour et Josso. Je ne sais pas si tout le monde voit qui est Josso, caricaturiste de fin 19e, début 20e, dans l'assiette au beurre. Il a caricaturé la police, la justice, les bonnes mœurs, l'armée, enfin, tout ce qui pouvait être caricaturé, il l'a fait, c'était un libertaire. Et dans l'assiette au beurre, en 1904, il me semble, il y a un numéro spécial sur les flics. Et il y a 15 dessins, nonobstant l'armement et les uniformes, les situations, on a l'impression qu'on pourrait être aujourd'hui. Donc il y aura les 15 dessins, les 15 caricatures de Josso, encadrées. On a même trouvé les originaux chez un collectionneur qui les prête. Et autour de chacun de ces originaux de Josso, il y aura les originaux de 5 ou 6 dessins de Faujour, classés à peu près thématiquement en fonction du sujet de chaque dessin. Voilà, avec des intros, avec des textes. Voilà. Et donc ça démarrera à la mi-mai jusqu'à la mi-juillet au Musée de l'Histoire Vivante à Montreuil. Voilà, ça fait partie un peu des choses qu'on essaie de faire, et puis ça, c'est plus amusant que de faire des livres, ça.
Donc le Maurice Rajfus, les amis de Maurice Rajfus, le site c'est Maurice Rajfus tout au long, hein, sans tirer, sans rien. Rajfus.org.
Voilà. Il y a l'accès à toute la série de Que fait la police. Il y a sa biographie du Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Et il y a deux films en version intégrale qui sont en principe disponibles. Il y a L'an prochain à la Révolution qui avait été réalisé par Frédéric Goldbraun en 2008. Et il y a de 99 un film de réflexe dont le titre m'échappe, mais sur l'extrême droite. Plus les quatre petits films de Clara Monet qu'on a vus tout à l'heure.
Ben merci, c'était chouette, hein, non ?
Merci. Merci
là-bas. Voilà, les amis d'Orwell, ou plutôt les amis de Maurice Rajfus, c'est terminé. Consultez notre page dédiée sur le site de l'émission, hein, sourier.info, sourier.ez, pour plein d'autres ressources. Les liens vers l'expo de la contemporaine, donc, qui s'est clôturée au mois de mars, où sont conservées les archives de Maurice. Le site Antimédia, donc, qui turbine tous les jours pour recenser l'innommable, les violences récurrentes de la police, de la justice, et de ses prisons. Le site c'est antidotemedia.dot, hein, antidotemedia.noblogs.org. L'association des amis de Maurice Rajfus, c'est tout simplement à l'adresse mauricerajfus.org. Et n'oubliez pas la réédition prochaine sur ce site des amis de Maurice du livre en gros et en détail sur la clique des Le Pen, et à partir de la mi-mai, donc c'est au Musée d'Histoire Vivante de Montreuil, il y aura l'exposition de dessins satiriques
du bulletin Que fait la police, notamment ceux de Ciné, T-News et surtout de Faux Jours. Et on se quitte avec le morceau du groupe Grenadine Vengeance, intitulé simplement Je suis flic.
Je suis flic. J'ai le goût du risque. La mission est déjà réalisée.
L'eau du sable.
La mission est de dératiser
le mille en blanc.
Je suis flic.
Je suis flic.
La mission est de dératiser
le mine en blanc.
Voilà une classe qui se tient sage.
J'ai le goût du risque.
Voilà une classe qui se tient sage.
Je recrache la vermine, Wagner à nous.